Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
En 1924, il y a un siècle donc, aux Jeux Olympiques de Paris, il y avait une épreuve de littérature. Tout le monde l'avait oublié, mais pas Louis Chevalier, qui publie les Jeux Olympiques de littérature chez Grasset. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en fait, vous nous apprenez que depuis les Jeux de Stockholm en 1912, les Jeux Olympiques contenaient des épreuves de peinture, de musique et de littérature. C'était une lubie de qui ?
Alors, de Pierre de Coubertin. En fait, si vous voulez, Pierre de Coubertin n'a jamais voulu que les Jeux Olympiques soient de simples championnats du monde. Il les avait conçus comme quelque chose de beaucoup plus sacré, un peu à la manière antique, et pour lui, c'était très important d'associer les écrivains et les artistes. C'était vraiment la deuxième étape du rétablissement des Jeux Olympiques.
Mais alors, on se demande comment se déroulaient les épreuves, parce que on voit bien comment on peut organiser une épreuve d'athlétisme. C'est très simple, à un moment, il y en a un qui gagne. Mais là, on est obligé d'avoir un jury, comme pour la gymnastique ou le patinage artistique.
La particularité de l'épreuve de littérature de 1924, c'est d'abord que le jury est extraordinairement prestigieux. On fait bien les choses dans la ville Lumière, et on a, dans ce jury, Claudel, Giraudoux, Paul Valéry, mais aussi D'Annunzio, Edith Wharton, Selma Lagerlöf, enfin, si vous voulez...
Selma Lagerlöf, il faut le dire, c'est la première femme à avoir eu le prix Nobel pour La Légende de Gösta Berling. Donc effectivement, c'est un poids lourd à l'époque. Il y a Anna de Noailles aussi. On se demande néanmoins, c'est très joli tout ce jury, il y avait le prix Goncourt, hein, ça n'a rien d'ahurissant, mais simplement comment ils font pour lire les textes qui ont été écrits par des gens de toutes les nationalités.
Alors, normalement, il y avait des traductions en anglais... et en français. Alors, moi, je n'en ai pas retrouvé la trace. J'imagine qu'il y a eu des négociations. Souvent, il y avait sans doute des résumés.
Vous dites, oui, qu'il y avait des résumés. On résumait son œuvre, en fait.
Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des concours oubliés. Et si, donc, il y a assez peu de traces. Et s'ils sont oubliés, c'est aussi parce que ça a été un échec. Et vous savez, comme moi, je suis... plus littérateur que sportif, je suis plus intéressé par les échecs que par les réussites. C'est un peu la différence.
Mais vous voulez dire un échec au sens où personne ne se souvient de qui il a gagné. Vous dites qu'à l'épreuve de littérature de 1924 à Paris, donc, il y a Henri de Monterland qui concourt, mais aussi Robert Graves, qui est un écrivain britannique. Donc ces deux-là, on s'en souvient, mais personne ne se souvient qu'ils ont participé à cette épreuve, donc ils ne l'ont pas remporté.
Ils l'ont pas remporté, et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que Monterland à l'époque a énormément de fans, et puis Les Olympiques qui sort à l'époque et dont la première partie est soumise au jury olympique est une œuvre qui est un best-seller. Il faut imaginer, si vous voulez, une époque où la littérature était réellement au centre du jeu. C'est-à-dire que, par exemple, un des buteurs de l'équipe de France de l'époque, dans l'Auto...
c'était le quotidien sportif.
Voilà, l'équipe de l'époque. On lui demande s'il a lu le livre de Monterland. Il dit, bien sûr, j'ai lu le livre de Monterland et je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il a une vision totalement belliciste de l'exercice sportif, et puis il explique que le capitaine donne des ordres, ce n'est pas comme ça que cela se passe. Et quelques mois plus tard, après que la France a perdu le tournoi olympique, qui est la première grande rencontre internationale de foot, hein, le tournoi olympique de football de 1924, après cette défaite, Raymond Dubly, qui est lui capitaine de l'équipe de France, réagit dans les nouvelles littéraires, un peu comme si Kylian Mbappé réagissait dans Lire et dit « Moi aussi j'ai lu Monterland, et je trouve qu'il a raison. D'ailleurs, si on avait mieux obéi à mes ordres, eh ben le résultat aurait été sans doute différent. »
Mais en fait, ce que vous montrez bien dans votre livre, parce que vous dissertez tout autour de ces Jeux Olympiques de 1924, c'est que l'écriture à l'époque passionnait les foules autant que les exploits sportifs au fond.
Oui, c'est un moment où il y a un changement de paradigme, si vous voulez. C'est le moment aussi où le sport devient réellement. Alors d'abord, l'État commence à s'emparer du spectacle sportif, et puis il y a un certain nombre de témoins qui le disent, où on commence à se retourner sur les premières stars sportives. Carpentier, mais d'autres aussi, alors que...
Carpentier, voilà, l'ange de la boxe.
L'ange de la boxe. Mais si vous voulez, on se retourne sur eux, alors qu'avant, on se retournait uniquement sur Pierre et Marie Curie. Vous voyez, c'est ça qui change, et c'est ça qui aussi qui m'intéressait, c'est se demander pourquoi. Eh ben, à l'époque, enfin, dans les années 30, Cocteau est plus célèbre que son ami et amant Panama Albrand, et aujourd'hui, mais aucun écrivain n'est aussi célèbre que Messi.
Oui. Bon. Panama Albrand était boxeur.
Oui.
C'est aussi dans les années 20 que le sport est devenu un objet politique.
Oui, alors en dictature, évidemment avec le fascisme, mais aussi en démocratie en France. En fait, il y a un certain nombre de structures qui se mettent en place, de subventions. Après la Première Guerre mondiale, on a tout à coup voilà une prise de conscience qu'on peut toucher les foules avec le spectacle sportif. Parce que il s'agit bien de spectacle. Moi, je trouve que c'est intéressant de faire malgré tout la différence. Les Jeux Olympiques, c'est du sport pour quelques milliers d'athlètes et c'est un spectacle pour des milliards d'autres. Voilà, pour des milliards d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi ce spectacle a supplanté les autres. À l'époque, Brecht, Bertolt Brecht, donc le dramaturge, qui est en train d'inventer un nouveau théâtre, dit, ben voilà, le sport, c'est un endroit où il y a une saine pratique de l'offre et de la demande. Et ben, c'est un endroit où le public en a pour son argent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est
surtout de la part de Brecht, qui était communiste.
Surtout de la part de Brecht, en effet.
Mais Mussolini est certainement le premier à comprendre que le sport est politique. C'est aussi le premier politique à se montrer torse nu. On a vu récemment des photos d'Emmanuel Macron en train de faire de la boxe. Mais le premier qui s'est montré comme ça, c'était Mussolini. Et ça démodait complètement à l'époque tous les politiciens qui, eux, arboraient encore un faux col cassé.
Oui, et Mussolini, à l'époque, s'inspire aussi en cela d'écrivains, notamment D'Annunzio. Alors, D'Annunzio fait partie des jurés et D'Annunzio est escrimeur, est un héros de la guerre un peu mythomane. Et D'Annunzio va aussi, à la fois être sportif, mais inventer un certain nombre de règles, si vous voulez, du fascisme, que ce soit les grands discours fleuves, mais aussi cette mise en scène de soi. Alors il est petit, il est borgne, il a les dents gâtées, c'est pas exactement l'image qu'on a du grand sportif aujourd'hui, mais il est aussi sportif.
Revenons à ces épreuves artistiques aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Je l'ai dit, les premières ont lieu en 1912, ça durera jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres en 1948.
Hein. Oui, ça va durer longtemps, même donc après la mort de Coubertin. Finalement, on va arriver à les éliminer parce que je pense que les successeurs de Coubertin n'ont pas très envie de conserver ces épreuves. On va arriver à les éliminer en disant que les Jeux Olympiques sont uniquement réservés aux amateurs et que les écrivains ou les artistes ne sont pas des amateurs.
D'ailleurs, Coubertin, vous le rappelez dans votre livre, n'était pas fan de cette idée de réserver les Jeux Olympiques aux amateurs. En tout cas, c'est ce qu'il a souvent dit.
Oui, il l'a souvent dit, en effet. Bon, après, Coubertin a cette vision très chevaleresque du sport qui finalement renvoie un peu à la même chose, hein, mais il cherchait de nouveaux baillards, une nouvelle
forcément,
élite.
Forcément, ça devait être amateur. Alors revenons sur ces épreuves et sur la façon de se dérouler, parce que les épreuves de peinture en 1924, il y a une exposition et l'exposition a lieu au Grand Palais qui va être sollicité cette fois encore un siècle plus tard, hein, pour les Jeux Olympiques. Mais là, ce sera pas pour la peinture, ce sera pour l'escrime, je crois. Est-ce qu'on en sait plus sur les épreuves de musique?
Alors, dans la musique, il y a des jurés, là encore, des jurés prestigieux. Il y a Bartok, il y a Stravinsky. Et finalement, il n'y a aucun vainqueur, aucune médaille n'est décernée. Alors, il faut aussi comprendre que les œuvres qui doivent être présentées doivent être liées à l'idée sportive, ce qui n'est pas évident pour la musique. Mais aujourd'hui, c'est assez drôle parce que lorsqu'on pense aux Jeux de Paris de 1924, on pense beaucoup aux chariots de feu et aux synthétiseurs des chariots de feu. Finalement,
c'est un film. Les chariots de feu, un film britannique avec une musique de Papatané. Comment s'appelait-il?
Alors là, moi, je vous
voilà, la musique était très très célèbre et ça a été un tube énorme d'ailleurs. Et effectivement, c'était des synthétiseurs.
Donc, si vous voulez, il y a chaque fois, en peinture, c'est l'artigue présente quelques peintures, mais ce n'est pas lui qui remporte l'épreuve. Enfin, on a l'impression que chaque fois, il y a une possibilité que ces concours récompensent finalement ceux que l'histoire a gardé en mémoire et les jurés ratent, échouent à trouver la bonne personne.
C'est arrivé dans énormément de domaines et dans des prix très renommés. Alors, la star de Paris en 1924, vous le dites, ce sera Johnny Westmuller en fait. Hein. Johnny Westmuller qui est un nageur, qui va avoir la médaille d'or du 100 mètres, je crois, notamment. C'est l'homme, le premier Tarzan du cinéma parlant, le premier à pousser le fameux cri de Tarzan.
Oui, c'est là qu'on voit que le spectacle sportif est lié à d'autres spectacles. Il va passer avant, après sa carrière sportive, il va devenir aussi mannequin pour des sous-vêtements.
C'est lui le premier homme, en fait, qu'on va voir dans des maillots de bain une pièce.
Et ça, il aura avant inventé une nouvelle façon de faire du crawl, mais aujourd'hui, en effet, on a l'image de Tarzan, Johnny Westmuller. Il y a Johnny Westmuller, il y a Nurmi. Et il y a aussi Andrade, qui est la grande star du football uruguayen de l'époque, qui, si vous voulez, le football est vraiment le sport qui attire les foules aux Jeux Olympiques.
Mais c'est fascinant quand même qu'une épreuve de littérature aux Jeux Olympiques de Paris de 1924, ça quand même motive 32 concurrents de 10 pays, quoi. Et donc ça avait de l'importance à l'époque, même si on a complètement oublié les tenants, les aboutissants de tout ça.
Alors, parmi les 32 concurrents, il y en a beaucoup qui sont alors aujourd'hui complètement oubliés, enfin même retrouver leur trace.
Tous ceux qui ont eu le prix Goncourt à l'époque aussi ont été
c'est vrai,
oubliés.
C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est important pour les Olympiades, et on le voit aussi même au niveau du Quai d'Orsay. Giraudoux, à l'époque, travaille au service des œuvres, dirige le service des œuvres, et donc fait le lien avec un certain nombre de fédérations dans le monde pour diffuser ces concours, pour essayer de trouver des concurrents. Donc oui, il y a une envie de réellement rendre ces concours aussi importants que les épreuves athlétiques. Je vous dis, un peu comme dans l'Antiquité, à Delphes, il y avait des épreuves de drame, de dithyrambe.
Et dans les pays arabes, il y avait des sortes de Jeux Olympiques de la poésie.
Tout à fait. C'est même, on devrait pouvoir refaire des concours, des épreuves d'art et de littérature au JO. Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison, en effet. Merci, Louis Chevalier, d'être venu nous raconter dans cette arrivée cette semaine, les Jeux Olympiques de littérature. C'est le titre de votre livre. Ça vient de paraître chez Grasset.
Merci.